Mesdames et messieurs, bonsoir. Moi aussi, j'adresse mes remerciements aux organisateurs de cette soirée. Encore un mot pour un organisateur, c'est monsieur Jean-François Schlemmer, directeur du Palais Mascotte, qui s'est mis à disposition. Une salle qui me paraît très idoine d'un point de vue spirituel pour accueillir Mehmet Miftiou, puisque le Palais Mascotte a cette réputation de faire tomber des barrières entre les catégories, entre les classes sociales et entre les gens. Et ça ressemble au credo de Mehmet Miftiou. Une salutation aussi à sa famille, à Cosetta Miftiou Toman, à Enon Miftiou, les deux autres enfants de Mehmet Miftiou. Enon est venu d'Albanie. Une salutation très chaleureuse pour sa femme Elsa. Ce sont des gens qui ont vécu dans leur chair l'histoire que raconte ce livre. Ce sont des gens qui ont vécu dans leur chair cette histoire dans deux sens, à la fois celle que raconte le livre et à la fois l'histoire que leur a valu ce livre, puisque c'est ce livre-là qui a valu à Mehmet Miftiou d'être déchu de son rang d'écrivain en Albanie et privé de la parole, comme nous venons de l'entendre. Mehmet Miftiou naît à Tirana en 1930. Il a 12 ans en 1942 quand il rejoint la résistance. Il est un enfant partisan, un enfant soldat, qui sera capturé par l'ennemi allemand et qui finira la guerre dans un camp nazi en captivité à Pristina. Tous ses camarades seront fusillés et lui seul sera gracié en quelque sorte en raison de son jeune âge. C'est comme ça que Mehmet Miftiou entre dans la vie et aussi on peut dire dans le socialisme, puisque à la fin de la guerre, quand il rentre chez lui, il bénéficie d'un immense prestige. Il y a chez eux à Tirana, il y a une photo où on voit Mehmet Miftiou qui enseigne le communisme à ses camarades de classe, plus enfants qu'adolescents. Tout jeune homme, il est employé par le comité central du parti, où il est lecteur, il lit les manuscrits des jeunes auteurs et réfère à la femme du dictateur Enver Hoxha, à Nejmiye Hoxha. Il lui réfère de leur conformité idéologique ou non. Puis il quitte ce poste et pendant 3 ans, il travaille comme journaliste et comme écrivain. Il obtient un prix de prose. En somme, c'est un personnage proche du parti, apprécié et qui connaît un succès littéraire et à qui il est tout soumis. Quelques années plus tard, pourtant, éclate une affaire, l'affaire Trebeshina, un écrivain, un ami de Mehmet Miftiou, qui prend position contre le régime sur certains points et qui déclare qu'il va ne plus vivre en Albanie, mais vivre en Suisse, dans un pays libre et neutre. On l'imagine, cette déclaration est très mal reçue des instances officielles, et il sera pourtant défendu par une seule personne, qui est Mehmet Miftiou, qui va jouer là-dessus sa propre crédibilité, sa propre liberté. En effet, il va être arrêté et interné dans un nouveau camp socialiste, cette fois, pendant 6 mois. Pendant ces 6 mois, il va rencontrer dans ce camp, il va rencontrer des camarades de captivité inattendus, puisqu'il s'agit de ceux-là même qui étaient ses ennemis quand il avait 12 ans. Il s'agit de ses anciens fascistes, de ses anciens sympathisants nazis, contre lesquels il a lutté. L'expérience est déterminante et est au cœur du livre dont on parle ce soir, comme on l'entendra. Libéré, il revient à une vie plus ou moins normale, il étudie la littérature, il devient enseignant dans un village. Jusqu'en 1960, donc 6 ans après sa libération, il recommence à écrire. Il publie d'abord en 1961 un roman autobiographique où il parle de ses souvenirs de guerre d'enfance. En 1964, il termine un deuxième manuscrit, c'est l'écrivain. C'est ce livre-là qui a été traduit maintenant en français par sa fille Bessa Miftiou. C'est ce livre-là que nous célébrons ce soir. Le manuscrit de l'écrivain parviendra directement au dictateur, au chef de l'État, Enver Hoxha. On verra ce que cette réception signifie dans plus de détails, mais on peut déjà dire que suite à cet épisode, Mehmet Miftiou a été justement déchu de son rang d'écrivain, qu'il a été interdit de publication et qu'il vendra des cigarettes pendant 25 ans dans un kiosque jusqu'à la chute du régime, moment auquel ses ouvrages seront publiés. Quant à moi, s'il m'a permis de faire cette digression plus personnelle, j'ai eu la chance de connaître Mehmet Miftiou il y a un peu moins de 10 ans et je l'ai rencontré régulièrement depuis. C'est un homme qui m'a tout de suite frappé et qui me frappe encore par l'absence totale d'aigreur, par l'absence totale d'amertume et de violence, qui me paraît proprement stupéfiante quand on considère la vie qu'il a eue. Je crois que cette intégrité lui vient justement du fait qu'il n'a jamais caché ce qu'il était, qu'il a toujours été loyal envers lui-même. Et dans ce sens, sa vie revêt pour moi, à titre personnel, une valeur exemplaire. Le livre dont nous parlons ce soir est un livre strictement autobiographique. L'alter ego de Mehmet s'appelle Mehmet Miftiou s'appelle Besnik. C'est un livre qui est construit en trois parties, pourrait-on dire. Dans la première, on fréquente la Ligue des écrivains albanais. Le jeune Besnik est un, comme on le disait, un jeune homme à qui tout sourit, un journaliste reconnu, un écrivain qui gagne des prix littéraires. Mais c'est aussi un monde où l'enthousiasme, la ferveur socialiste des débuts est en train de se transformer en conformisme, en obédience. C'est un monde dans lequel des jeunes auteurs ambitieux et imbus d'eux-mêmes luttent les uns avec les autres pour percer, dans la conviction chacun qu'ils sont meilleurs que les autres. Et pour ce faire, bien sûr, ils suivent aussi les lignes qui leur paraissent les plus prometteuses. Le jeune Besnik est un personnage instable et qui, par beaucoup d'aspects, ressemble à ses collègues écrivains. Il y a pourtant une grande différence, c'est un idéalisme beaucoup plus fort qui va le conduire justement à l'internement. Internement qui est au cœur du roman, c'est la deuxième partie, la partie centrale, dans laquelle Besnik va être pris entre sa répugnance de ses anciens ennemis, une sorte de loyauté extrêmement ancré en lui à ce pourquoi il a lutté comme enfant, comme enfant qui a vu ses compagnons fusillés. Et malgré tout, le constat que tous ces hommes, ses adversaires d'hier, sont aussi des hommes, et que certains n'ont pas moins de dignité que lui. Son intégrité alors semble menacée, fissurée, mais il va aussi faire quelque chose de cette expérience. La troisième partie nous renvoie à 6 années après sa libération du camp, dans laquelle Besnik est rentré dans une vie normale, il est enseignant, il cherche à se marier, il est plus ou moins rentré dans le rang suite à cette expérience corrective, et pourtant, il va reprendre la plume, il va recommencer à écrire, et ce, suite notamment à une rencontre qui constitue la première lecture de ce soir, une rencontre dans le village dans lequel il enseigne, avec une prostituée. C'est le premier passage.
Besnik me hoq me një anë i turbulluar, i vrash për trisht. Ajo në fillim kujtoj që dhe gjeloshi porin po mirë të në indjë që të fshie, pa ndaj që ndroj e shtërir e palivizur, por kur të gjoj rëngim në ti u që dit, dhe u afrua dhe pyti kurioze. Shfar ke? Ajo nuk u përgjeq dhe shtyri. Nuk ishte indezur dhe primi që beri ju dhe indyr dhe veti e poshtëruar. A i ti përsëri ju kujtuan endrat më të mëdha, nga mosha 11 vjeçare e gjerë në qast për gati 20 vjetë, kishë ndëruar femër të përsosur, dëshëri të lartë si askush, vepre të ladishe, emër të ndërruar të pavdekshëm mes popullit të vetë. A i me dojë se më kotë e kishë pandehur vetën të dëlluar mes njerëzve, se të caktuar për të bërë diçka të madhe. Tani e shihte vendin të gjveshur, nga lulkët, në lumë, dhe nuk ishte së paku asë njëri i regullë, i ndershëm si zë një gjithë të tjerë. Ajo së cilës nuk jam mirë të mendje se shfarë blumë të djeloqi, dhe me kjo në dhem, pse e shihte që vunte, e pyeti me zetë amër, shfarë ke, pse mërzite? Kësa i here nuk dëgjoj të largohi, ju në gjithë pas trupit dhe për të piqet të angushëllonte, të gëzonte, të me përgëdhjeljet, puthjet dhe fjallët të saj. U bë edhe kërjozë, pse vunda e ideal që e kishë kapur befasishës, duke e lëmuar dore i vajtit e kimet e gjoqësit. Dhe i tha, sa shumë paske, Besniku qesh i hildhë, duke menduar se ku e kishte mendjen a i, e ku ajo. Vajza pandehu se i gjeti pingën e dobet dhe filloi të godriste. Por nuk e bëri të qeshme. Përkundërzi, ai u largua dhe i kërkoi: "Bilet të qenë." atëherë e u provat që të mos të mërziste dhe rinë të eshtë të paze. E njëtë të vetën të fyrë, por dinë dhe keqë edhe për mësusin, duke në hatër të bullë shkakun e sa i dhembje, i foli për të ngëshmëluar. Pse mërzite? Nuk bëhen dhe je kushtë disë të shfarë të tushme, por diçka... Po diçka të natyrshme, të nevojshme për tupi. Nuk po të kuptoj pse i dhërosh kaq shumë. Me stiku t'i bërë për shtypje, ajo që kërkonte të ngushëllonte me përgëdhile, me shaka, se pyste but, se brigjide e me emërsi, dhe se tani arsetonte në çuditshme. Ai nuk mund të tjera fende saj për rëndër të veta dhe zhgjinimet, se kishtë mundësi t'i duke qisharat dhe i shmendur, për pap, ndje nevojnë t'i shprete në gjithka, sinqerisht, dhe fërmë. E kam ndruar jetën ndryshe, gjë nësot nuk kam puthu, kur një femër që nuk e kam të shuruar, dhe tani, ajo, u afrua, e përdhejli dhe qeshi. Po gëzoj me dhërimin naiv të këti ideali, nuk të ndhe kur se dhe të hasën në një burë që dhe të trishtoj dishka të manë si ajo. Kur ishte zhvirë gjëruar, selja ti t'jo duk që shrake, fosh njërake, po prej një ju të mirë. A i po i flisë të bu, nuk e përplasën si tjertë, e lërgon dhe nga datje më stafynte, i hap të zemën si motës si të dashur, të përrohër para saj, a i shumë sa nuk qante. Sa i që dishin kjenke, i feolies sinqerisht. Pse dhe e mera kotë? Unë aty po prisi një inxhinier që me mirë të më matar. A i ka në Tiran grua, fëmi, të vogël, dhe unë shle gadhë shdo natë në dhomë në ti të në Romanës. A nuk e qanë kokën fare. Kështu në gjithë me të gjithë, kushtë ti e beqarë, ke nevojtë të domethdoshme për femen, të shikjë që me takove dhe hidherojë, sa i qudiqë. Mishniku, shërthi u prapë, i vindë dhe keqë për rëndat dhe foli. Dofta të tjere kanë të drejtë, dofta unë amë budolavë, por nuk mund të jemë ndryshe. Ajo heshti një hu, dhe mendoj se me të vërtet, a ishte budolla dhe kishtin të drejt ata që të rëthonin gratë, fëmijët, që dëfreshin me ta dhe pasta e pagunin. Me gjithse, me ato njerës ishte lidhë në ngusht, përkësisht eratia, gëzimi, koha, shpresa, shukëria, ajo ndjente jo radhë se i kishte i natë. Së po të ishte regullë, nuk do të kishte dashur të rrinë të mirë të përbashorët asë një për tyre. Bileherë i vërrende, si janë miqë. Shpesh vetë më zakoni, një rjedhja njaret e detyron të shkonte pa dëshirë në kratë të tyre. Dhe u pride, jo, ti kete drejtë, ti mëndën thellë, të mënë si njëri, ata janë të ceket dhe nuk vështrejnë lartë. Asaj o këtu e saj në fillim e kishë pytur se a e dëshëronte. Këtë fjalë ishin dukur të çuditshme, pa kuptim. Dhe ishte përgjegjë ftoft. Jo, nuk të dua. Por tani, po kënaqje që e kishte pyetur ashtu. Ajo tani po e përkëdhil të but. Plot ëmbël, plot dëshori. Edhe besniku e ndjeqë shumë të afërt dhe i qalë halë. Sot kam përzë një vajzë e cilë me dëshonë për i vitesh. Ajo u gjullonë dhe piti. Po ti e dëshonë atë? Po, e dua. A i lëshoj ashtu si kotë këto fjallë. Po pse e përzure? Ashtu është i shëria, jo. Ajo heshti një hopë dhe piti prapë. Është e bukur? Ka qenë shumë e bukur. Po në një karë, se ka kaluar një gjarje shumë të hidhura. Ka shkollë kështu si ti? Po. Ata heshtin të dy një copë herë dhe pastaj a i foli. Është e para herë dhe e fundit. Me mua kur në të takosh me. Më kupton? Po, u përgjegjo me buzë në gacë. Të një nuk di si të themë, zërgënishë në fund, më fani, ju japin para. Vajzë e buzë qeshi hidhë, sa i kishtë të tupë të zinte në gojë paratë. Kurse të tjerë, me te e filonin, ti japisht një mendjen. Të një nuk mëndoj fare për pagesë. Ishte shumë e kënaqur, si ju duk djelushi, si dashnorë, dhe pyti e ti jashoj dhe shka haren në shpirt. Po prap, o përgjeq me se të embër. Nuk dua. po deshe, më thonë një libër, tjetë i bukur, të flasë për dashuri. Miru për gjegja i, morin në raft romanin Martin Eden të Jack Londonit dhe desh të shkrunte një shënim së kujtim për në aje pyti. Të shruaj diçka? Jo, lëfuzoj, jo. E shojnë të tjerë, po shkoj që të le qëtë të qëtë, ti mos e mërësit. Hapi dhe nga dalë, i të rëgjë dolë më përëndësi dhe foli me të butë, natën në mirë, qëtësu unë për ike.
Il s'écarta, troublé et triste. Elle crut qu'il s'était éloigné afin de se procurer une serviette pour se nettoyer et resta quelques moments sans bouger. Mais quand elle entendit un soupir, elle s'approcha de lui, étonnée, et lui demanda avec curiosité « Qu'est-ce que tu as ?» Besnik ne répondit pas et la repoussa. Il se sentait souillé. De nouveau, ses grands rêves demandaient leur dû. Depuis l'âge de 15 ans et jusqu'à maintenant, presque 20 ans durant, il avait rêvé d'une femme parfaite, d'un amour sublime, d'œuvre immortelle. Il pensa qu'en vain il avait cru être différent des autres, désigné à accomplir de grandes œuvres. Plus que jamais, il se voyait maintenant plongé dans la boue. Elle lui demanda avec douceur « Mais pourquoi es-tu si triste ?» Elle se serra contre lui en essayant de le consoler par ses caresses, ses baisers et ses paroles. S'y mêlait une sorte de curiosité. Pourquoi souffrait-il ce garçon qu'il avait pris de façon si soudaine ? En le caressant, elle mit sa main sur la poitrine du jeune homme et commença à le chatouiller. Mais il ne rit pas, au contraire. Il s'éloigna et dit « Laisse-moi tranquille. » Alors, elle s'écarta de lui, silencieuse. D'un côté, elle se sentait offensée, mais de l'autre, sa compassion pour l'enseignant la retenait. Avec son instinct de femme, elle devina vaguement la cause de la douleur du jeune homme et lui dit, afin de le consoler, « Pourquoi éprouver des désagréments ? Tu n'as rien fait d'honteux. Tu as accompli tes besoins naturels, nécessaires au corps. Je ne te comprends pas. » Besnik ne pouvait lui parler de ses rêves et de ses désillusions, car elle l'aurait pris pour un homme ridicule et fou. Mais il éprouva tout de même le besoin de lui dire quelque chose de sincère. « J'ai imaginé ma vie autrement. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais embrassé une femme dont je n'étais pas amoureux. Et maintenant ?» Elle s'approcha de lui, le caressa et rit, contente de la tristesse naïve de cet homme. Elle n'aurait jamais imaginé rencontrer un mâle qui s'attristerait de la même façon qu'elle au moment où elle avait perdu sa virginité. Son comportement lui sembla infantile et ridicule, mais il révélait quelqu'un de bien. Cet homme lui parlait avec douceur. Il l'écartait doucement afin de ne pas la blesser. Il avait tellement honte devant elle, presque jusqu'aux larmes. « Que tu es étrange, » lui dit-elle. « Pourquoi te faire du souci pour rien ? J'étais en train d'attendre dehors un ingénieur qui allait me prendre en moto. À Tirana, il a une femme, un enfant, mais je couche avec lui chaque soir dans son bureau. Il n'en fait pas une histoire. Ainsi sont tous les mâles. Alors que toi, tu es célibataire, tu as besoin de femmes. Au lieu de te réjouir de m'avoir rencontré, tu t'attristes. » Besnik soupira de nouveau, regrettant ses rêves. Peut-être que les autres ont raison. Peut-être que c'est moi l'idiot. Mais je ne peux être autrement. Elle se tut un instant. Jamais elle n'aurait choisi un de ses clients comme mari. C'était l'habitude qui la poussait dans leurs bras, souvent sans qu'elle en ait envie. Elle dit d'une voix claire, « Non, c'est toi qui as raison. Tu réfléchis profondément, comme un vrai homme. Les autres sont superficiels et ne voient pas loin. » Elle se souvint qu'il lui avait demandé si elle l'aimait elle avait jugé ces mots étranges, insensés. Mais à présent, elle était contente qu'il lui ait posé cette question incongrue. Elle le caressait doucement, avec amour. Besnik l'a senti très proche et lui ouvrit le cœur. Aujourd'hui, j'ai congédié une femme qui m'aime depuis des années. Elle s'anima et lui demanda : Et toi, est-ce que tu l'aimes ? Oui, je l'aime. Besnik avait lâché ces paroles sans réfléchir. Mais pourquoi l'as-tu congédié alors ? C'est une longue histoire. Après un silence, elle lui demanda : Est-ce qu'elle est belle ? Elle a été extrêmement belle. Mais maintenant, elle est un peu fanée, car elle a traversé des moments très durs. Elle a fait des études comme toi ? Oui. Ils se turent. Besnik reprit la parole. C'était la première fois, et je souhaite que ce soit la dernière. Tu comprends ? Oui, répondit-elle, souriante. Maintenant, je ne sais pas comment le dire. D'habitude, à la fin, excuse-moi, on te donne de l'argent. La fille sourit, cette fois amèrement, car il avait honte de parler de fric, alors que les autres, c'était le prix qu'ils discutaient en premier, essayant de la corrompre. Maintenant, elle ne pensait même pas à l'argent. Elle se sentait heureuse, car le jeune homme lui semblait comme un amant. C'est pourquoi ses paroles refroidirent un peu son allégresse. Mais elle répondit avec douceur : Je ne veux pas d'argent. Tu peux m'offrir un livre, un beau livre qui parle d'amour. D'accord. Besnik prit dans sa bibliothèque un de ses livres préférés, Martin Eden de Jack London, et sortit son stylo afin de mettre un mot en souvenir. Je t'écris quelque chose ? Ah non, non, refusa-t-elle. Les autres pourraient le voir. Maintenant, je pars et je te laisse tranquille. Ne sois plus triste. Elle ouvrit la porte, lui serra la main cordialement et dit : Bonne nuit, calme-toi, je m'en vais. Elle partit en refermant la porte. Le lendemain matin, quand Besnik se réveilla, il décida de recommencer à écrire. Et plus tard dans le roman, on comprend que le livre qu'il commence à écrire, c'est le livre que nous avons aujourd'hui entre les mains, en albanais bien sûr.
Gruem un bafish candy. Gulistamba, u përshëndet si bornesh. Ama i dridhi buza si flete e plebit. Thiri djalin dhe i tha: Tako me të ta. Po djali më rështoj fëtor, bërë një hapas dhe ja ktheu: Baba im është në burg. Është lirur e rëbëdolla. Hidhë babajt një qafë. Po shetane nuk qase e nuk qase dhe tha: Po mua më kanë thënë se është dënuar për jetë. Në këtë qas në barak hyri polici dhe lemëroj të flinin. Të internuri shkundën mendimit e hidhura dhe si tërbarar pregatitin dysheqet. Lami e ndërpehu kalzimin, u zhvesht dhe ratë të flerë. Gjeve pyti: Po pasaj? Tani flem, nesër, tha Lamja, dhe ishtë rirë në koris, përfiteroj që kishtë ndodhur vërtet pastaj. Atë natë pas darke kishtë hyrë në dhomën e gjumit. Ishte si që patë lënë atëherë para 10 vjetëve. Aty në hasër patë qenë shtruar dysheku i ri, ko të flinin me gruan pas kaq kohësh. Pak më tej, po bënin gjumë të thellë dy fëmijët. Ishin zbuluar dhe vogli që të hedhë këmbën si për të madhit. A ishte madhën gjyrë, për pak i kishtë në shpituar lotët. Se tërët natë ata i patën dhejnë në ljargë. Po ishte përmbajtur dhe kishtë menduar me vete të të mësojnë. Ishte afruar, ishte përkullur në bita, i kishtë puthën nga dalë se mosë zjonte. Befas kishtë lëvizur dera. Ishte ngritur shpet në këmë, se nuk përqente ta shihin të mëllëngjyrë. Kishtë bërë si ku por qvishe dhe kishtë rëndë në dëshekun në mërtejsës. Një të stiktivisht, kishpritur trikshtrihe pran trupit. Pran, ai trupin grohët, i bëshem, i but, që e ndiste. Kishpritu ndohëtë të përgëdhete, të shtypte me durët e ti të ashpra, gjinë dhe hedhër të varë. Të përkon të qafën shëndosh, faqet e fryra, të ndizë e pshirinor. E shëtja ishtë gjiveshu nga dalë. Kishë figur lampën dhe ishtë rëshqitu pran ti. A e nuk ishtë ndjerë atë erdeset të trupit të saj, që nuk e pat haruar 10 vjetë të tëra. A e ishtë më plakur, gjinët ishtë më vyshkur, faqet tharë dhe trupi tretur bërshkop. A e kishtë shtërnguar në gjoksë, por nuk ishtë ndesur gjaku dhe kishtë ndjerë një dërshurit tjetër gati-gati, jo si për një femër. Me që ajo kishtë plasur vajtë, e kishtë lërguar dhe kishtë pytër. Qke? E shohë që ishtë përgjegjur duke më bëzuar, në ndhem me femijit. U rritën e tim, për vetës me fjen kejë, u mësova. Pasaj, ajo kishtë edhe një hopë, kishtë eshtu një hopë, edhe i kishtë shtuar. Ti kenge i pari, unë në plaka. Tani, po flinte prapë në burg. Fshati, dhoma, fëmija, gruja, dy sheku, gjendë që në përsëri shumë blarë. Pa i nuk ndihu në një hidhërim të thellë. Ju kujtua e nesimna në fshatë. Kishe tiltu me qapë nga dalë gjithë fshatin në një përgjithreshke plot hidhërim të mbytur. Kishte vajtu të lema, të ara, të gjoli i baktive, lisi i matë e shëllëri, të kofshi dhe kishë kujtuar qef kapëtëleqet e vegjilisit. Ishin dukur kujtime shumë të larga, po të shtarita. Shate ishte po i, kujtimet po ato, po njëzët ishin ndryshuar dhe për këtë a ju bind të pasnesën e më radhë ditë tjera. Shumë bërë në sikur nuk e njëhnin, ca e përshëndet në fëtot, vesh në një më të rallë jep të dorë, gjërkale matë se kjasëshin. Atëherë ati i filluan të kujtoshin vitet ashpat e luftës, që në burg i ishin duku se kënë varrosur për jetë.
A l'aube, un sifflement réveilla Besnik. Le gardien entra et cria. Besnik se leva à bout de force. Le sifflet retentit à nouveau et la plupart des détenus se mirent en rang pour partir travailler. Inquiet, Besnik se rangea avec les autres. Peu de temps après, ils arrivèrent tous devant un grand canal. Ils déposèrent leurs pains et leurs affaires, prirent les pioches et les pelles et commencèrent à creuser, chacun à la place qu'on lui assignait. Besnik également creusait avec une pioche. De temps en temps, il regardait autour de lui. Les détenus approfondissaient le grand canal, entourés de gardiens, comme s'ils se trouvaient dans l'ancien Égypte. Sa gorge se noua. Il n'avait pas l'habitude de travailler. Ses muscles, qui n'étaient pas entraînés, se fatiguèrent dès les premières heures. Zef, sachant que Besnik était tuberculeux, eut pitié de lui et pria le gardien de lui accorder une petite pause. Le gardien accepta. Besnik jeta sa pioche et s'approcha de Genzi, le détenu qui avait pour tâche d'apporter de l'eau aux autres. Couché sous un arbre, Genzi jaugea avec froideur le nouveau détenu, content de le voir épuisé et tout en sueur. Une mauvaise lumière éclaira ses yeux fixés sur Besnik. Vous avez l'air fatigué. Bien sûr, répondit Besnik avec lenteur. Vous allez vous habituer. Tout commencement est difficile, lui dit-il en remplissant d'eau son gobelet en métal. Besnik but l'eau et lui rendit le gobelet en le remerciant. L'ex-feldmarschall eut envie d'ironiser un peu avec cet ex-communiste. En essayant de cacher son intention moqueuse, il lui dit avec tout le sérieux dont il était capable. Cela vous fait du bien de travailler. Pourquoi ? S'étonna Besnik. Genzi articula lentement. On m'a dit que vous faites de la littérature, que vous avez publié un livre. Mais il faut connaître la vie pour pouvoir créer de vraies œuvres d'art. Je vois que votre visage est tranquille, dans vos yeux brille encore la flamme de la jeunesse. Votre front est exempt de rides et de pensées. Ici, vous avez la possibilité de connaître la vie, de vous former comme écrivain. Un grand homme russe, Dostoïevski, créa des œuvres monumentales après sa détention. Fasse-Dieu qu'on ne vous garde pas longtemps ici, pour que les souffrances ne vous brisent pas définitivement, pour que vous ne deveniez pas pessimiste, afin que vous puissiez poursuivre sur le chemin de la littérature. L'écrivain doit avoir encore confiance en la vie pour pouvoir créer des œuvres d'art. Autrement, tout lui semble inutile. Besnik se sentit oppressé par ces paroles. Son regard obscur de Genzi, son aspect triste, ainsi que le timbre ironique de sa voix. Mais il ne voulait pas s'avouer vaincu et dit quelque chose qui n'avait pas vraiment de lien avec la tirade de son interlocuteur. Goethe dit à travers Faust que ce monde n'est jamais muet pour un homme d'esprit. Celui-ci ne désespère pas, car la vie à chaque moment lui dit quelque chose, lui fait découvrir des valeurs et des beautés qui lui servent de fil pour s'attacher à elle et trouver de la joie. Faust, c'est mon œuvre la plus chère. Les souffrances de l'âme humaine à la recherche de la vérité y sont décrites avec une force hors du commun. J'aime surtout le dernier acte. C'est unique dans toute la littérature mondiale. Et Besnik commença à réciter avec passion la version russe du dernier monologue de Faust en traduisant simultanément en albanais. Il accompagnait ses paroles de gestes, les yeux en extase, au point que Genzi s'étonna. « Vous récitez bien. Si j'étais professeur de littérature, je vous aurais mis la note maximale », le complémenta-t-il avec ironie. Il y a deux œuvres que j'apprécie particulièrement dans la littérature mondiale, continua Genzi sans remarquer la moquerie de Genzi. Faust et Prométhée, ces titans, rien ne peut les détruire. Ils expriment l'amour pour l'humanité avec une force extraordinaire. Leur puissance et leur majesté étendent le monde à travers les siècles. Une ombre de scepticisme se profila sur l'élève de Genzi. C'était la première fois qu'il rencontrait dans cette prison un homme aussi romantique qui parlait des vertus humaines avec tant de passion. Les paroles du jeune homme l'attristèrent et firent naître en lui le désir d'une vengeance. Il allait le dépouiller de ses illusions et de son enthousiasme juvénile. Je vous conseille d'oublier Faust et Prométhée. D'ailleurs, vous auriez cessé de les évoquer, même sans mon conseil. C'est la dernière fois que vous parlez d'eux avec tant d'ardeur. La jeunesse est pleine de fantaisie, d'espoir, de courage. Mais avec le temps, tout tombe, comme les feuilles en automne. Autrefois, j'étais jeune moi aussi. J'aimais Faust et Prométhée et voulais leur ressembler. Mais maintenant, j'apporte de l'eau aux prisonniers. La désillusion est le processus le plus naturel, le plus humain de la vie. Seuls les génies arrivent à réaliser, par une volonté de faire et un travail d'esclave, une partie de leur rêve de jeunesse, de sorte qu'ils ne subissent pas une désillusion totale. Oublie donc Faust et Prométhée. Le jour viendra où tu te souviendras de ce buisson piquant du lait Genzi et de ses paroles vraies. On donna un coup de sifflet. Le policier fit signe au nouveau détenu de recommencer le travail. Après avoir fini la lecture, je profite pour vous remercier tous d'être ici ce soir. Je suis très émue. Et j'aimerais dire à chacun de vous particulièrement un grand merci. Thank you. Je vous remercie d'être ici.
Mais moi, je falenderoj për kërcimin me cilët dëgjuat mua dhe vajzën time.
Je vous remercie pour votre patience, m'avoir écouté moi et ma fille.
Edhe më bëhet keq shumë, gëzohem.
Et je suis très heureux.
Comme
rarement dans ma vie. Que vous avez applaudi tant de fois.
C'était Mehmet et Bessam Iftiou avec des extraits de L'écrivain, enregistrés le 28 janvier 2009 à Genève.